sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Le retour à notre radio Vogue. On va terminer notre journée, c'est-à-dire la dernière émission de la journée. C'est avec encore toujours des invités. Et l'invité donc, qu'on a en face de nous, c'est un représentant de la gendarmerie de Commercy. C'est l'adjudant, M. Edenbrand, qui est là en face de moi. Et que, voilà, on va apprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, donc, on voit toujours les gendarmeries venir ici, dans le lycée, qui est autour aussi, chaque fois que, voilà, qu'on a besoin d'eux. Mais là, on va entendre vraiment donc, les témoignages, le fonctionnement de la gendarmerie et aussi donc, savoir vraiment de l'organisation, l'engagement, le rôle de la gendarmerie et aussi donc, la façon donc, de vraiment de réagir à certaines situations et surtout entendre voilà, par une personne concernée et qu'il a plus d'expérience. Et je vais lui donner la parole pour se présenter. Bonjour.
Bonjour. Donc je suis l'adjudant Hildenbrand de la brigade territoriale autonome de Commercy. Je vais d'abord prendre quelques minutes pour vous présenter mon profil de carrière, de quelle manière je suis arrivé en gendarmerie. Donc j'ai commencé ma carrière en gendarmerie par l'intermédiaire du service militaire, qui à mon époque était encore obligatoire. J'ai passé mon service militaire durant 2 ans. Donc en gendarmerie, par choix, pour ne pas subir mon service national, j'y suis rentré en mars 1999. J'y suis resté pendant 2 ans, 1 an à la brigade de recherche à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, puis durant 1 an également à la brigade territoriale de Gerbévillers sur la même compagnie à Lunéville. À l'issue, ma vocation pour la gendarmerie ayant été confirmée par mon service militaire, j'ai décidé de passer le concours sous-officier que j'ai réussi et je suis rentré en école de sous-officier de la gendarmerie à Chaumont en 2001. Après un cursus de formation d'un an, j'ai été affecté en gendarmerie mobile à l'escadron de Sarreguemines dans lequel je suis resté pendant 4 ans et demi. J'ai eu l'occasion de faire différents déplacements en métropole et également en outre-mer par le biais de mes fonctions dans cet escadron. J'ai ensuite intégré la gendarmerie départementale également par choix. C'est ce qu'on appelle un changement de subdivision d'armes. Donc je suis passé de la gendarmerie mobile à la gendarmerie départementale. J'y suis arrivé en 2006 et j'ai été affecté à la communauté de brigade d'Étupes sur la compagnie de Montbéliard dans le Doubs, en Franche-Comté. Depuis 4 ans, depuis août 2015, je suis affecté à la brigade territoriale autonome de Commercy.
Et donc, ça fait 4 ans, et quand on parle donc, de Commercy, est-ce que, par rapport à toute cette expérience, est-ce que c'était vraiment le choix personnel au départ? Quand vous étiez donc, lycéen ou même à l'école, c'était vraiment l'objectif, le métier que vous pensez faire quand vous serez adulte?
Alors oui, c'était un choix de ma part. Depuis la classe de 4e, je savais que je voulais intégrer la gendarmerie. Donc oui, c'était un choix. J'ai orienté mes études pour parvenir à mes fins. J'ai passé un BEP et un bac pro secrétariat compta. Afin de préparer mon arrivée en gendarmerie, puisque je savais d'ores et déjà que j'allais avoir à travailler au quotidien sur du matériel informatique et qu'il me fallait une formation assez conséquente pour pouvoir avoir des connaissances de base dans ce domaine. Et je savais également que la formation militaire et plus spécifique me serait inculquée en école de sous-officier, donc je n'avais pas besoin d'autres formations spécifiques, puisqu'elle est déjà préparée en école.
Et donc, en arrivant donc à Commercy, c'est un choix aussi personnel aussi. Alors, voilà, donc c'était mutation.
Mon arrivée à Commercy est un choix personnel, puisqu'étant originaire de Meurthe-et-Moselle, je voulais me rapprocher de la Lorraine, qui est donc ma région natale. Mais mes différents choix ont été orientés depuis l'école sous-officier, hein, puisqu'on est affecté en fonction du classement. En fonction également des postes disponibles au moment de notre sortie d'école. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que certains postes peuvent être choisis ou non. Là, en l'occurrence, j'ai fait le choix de la gendarmerie mobile parce qu'étant jeune et ma situation à ce moment-là me permettant de faire des déplacements en métropole et en territoire et département d'outre-mer, j'ai fait ce choix-là en début de carrière pour par la suite m'orienter vers la gendarmerie départementale et me stabiliser par une affectation plus durable. Ensuite, l'affectation en Franche-Comté s'est faite également par choix, mais aussi par rapport au poste qui m'était proposé. Donc j'ai fait le choix de partir dans une région limitrophe pour ne pas m'éloigner à l'autre bout de la France. Et j'ai choisi la Franche-Comté où je suis arrivé en 2006. Et après 9 ans passés là-bas, je me suis dit qu'il était temps pour moi de rejoindre ma région natale. Et j'ai fait ma demande pour revenir en Lorraine. Et m'a été proposé la brigade territoriale autonome de Commercy que j'ai acceptée.
Alors, donc, dans la gendarmerie de Commercy, il y a beaucoup de personnes ou comment l'organisation, comment fonctionne la gendarmerie?
Alors, en théorie, nous sommes 27 personnels avec plus ou moins d'écart en fonction des mutations, avec le temps nécessaire pour les remplacements. Ensuite, on est répartis, on le verra un peu plus tard dans l'interview, sous différentes classes, je dirais. Il y a les officiers qui sont nos chefs. Un officier étant à la tête de la brigade territoriale autonome, les sous-officiers qui sont les gendarmes de terrain et gradés qui les encadrent, et enfin les gendarmes adjoints volontaires qui sont une catégorie de personnel engagé pour une durée de 5 ans au plus, et ce qui leur permet de préparer éventuellement, s'ils le souhaitent, le concours de sous-officier pour en faire leur carrière. Donc, oui, nous sommes quand même une unité importante, notamment en Meuse, sur le groupement de gendarmerie de la Meuse. Je dirais que notre activité est relativement importante sur Commercy, même si nous sommes dans des petits villages meusiens. Notre activité est néanmoins assez conséquente.
Donc à l'intérieur de la gendarmerie, comment ça, est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'il y a un emploi, combien d'heures par semaine?
Alors,
est-ce que c'est fixé ou bien donc c'est variable?
C'est très variable. Je pourrais pas vous donner un exemple de journée type ou un nombre d'heures qu'on pourrait effectuer par semaine. Pour la bonne et simple raison.
Pas d'heure fixe, par exemple. Après, on comme d'autres services.
Alors, il peut y avoir des prévisions de services qui sont faites, bien entendu, mais tout peut évoluer en fonction de l'événement, puisque ce qui nous commande, c'est avant tout l'événement opérationnel. Si on a besoin de notre présence sur le terrain au-delà des 8 heures prévues, comme toute personne qui intègre un emploi. On peut être amené à rester plus longtemps sur le terrain ou à faire tout à fait autre chose que ce que nous y avions prévu à l'origine. C'est là aussi l'intérêt de notre métier, puisque il n'y a pas de routine dans notre métier. On ne fait pas tous les jours la même chose de manière répétitive. C'est tout à fait varié.
Et au niveau de l'organisation avec l'équipe, est-ce que donc il y a des réunions à chaque semaine pour préparer l'emploi du temps de chacun par rapport à déjà certains événements, et après bien sûr s'il y a le changement on accepte, mais est-ce que ça se passe pareil comme d'autres services?
Alors bien entendu le service est programmé à l'avance, il est prévu en fonction des événements, on peut être amené à le modifier. notamment en raison d'événements du domaine judiciaire qui peuvent nous amener à devoir monter une opération avec des interpellations, des gardes à vue programmées en fonction des derniers événements et qui peuvent un peu bousculer le programme initial. Et après, à nous de nous adapter. C'est aussi une des forces de la gendarmerie, une grande force d'adaptation. Et c'est nécessaire vis-à-vis de notre fonction.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vraiment, tout est planifié. C'est, voilà, là, quand on a donc, l'emploi du temps de la semaine, voilà, parce que des parents qui écoutent, et des enfants aussi, voilà, pour qu'ils voient que ce n'est pas pareil que quand on est dans un service de fonctionnaire, que voilà, donc c'est, tout est programmé, le nombre d'heures, aussi quand on est dans un bureau, bien quand on est même enseignant ou dans un service hospitalier, etc. Mais la gendarmerie, voilà, ça fonctionne comme voilà, la gendarmerie, la police, voilà, tout varie suivant donc les événements.
Tout à fait. Donc nous avons un statut militaire, donc nous sommes un service public, hein, et de par notre statut militaire, on doit se rendre disponible. Ça fait partie intégrante du métier et des choses à accepter lorsqu'on rentre en gendarmerie.
Donc, et par rapport à déjà donc les années d'expérience, est-ce que c'est parfois c'est un métier difficile ou c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, c'est difficile. Est-ce que c'est vraiment... Et ça demande parfois vraiment des compétences obligatoires, sinon on ne peut pas résister, ni être... Voilà, donc on peut le faire comme on pense au départ.
Alors, n'importe qui peut faire ce métier, je dirais oui, à condition de s'en donner les moyens. Il y a un minimum d'éléments à prendre en compte, notamment une certaine préparation physique pour ceux qui voudraient passer un concours gendarmerie, qu'ils soient gendarme adjoint volontaire, sous-officier ou officier. Il faut se préparer un minimum à entrer dans une unité opérationnelle. Donc forcément, on va vous demander d'avoir une condition physique minimum. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas accepter une personne qui se laisse aller et qui ne s'entretient pas. On va lui demander notamment d'avoir un minimum au niveau course à pied, de faire notamment un 3000 mètres qu'on fait encore régulièrement tout au long de sa carrière, avec différents éléments sur lesquels on va travailler, notamment l'intervention professionnelle. Donc ça va se construire au fur et à mesure de la carrière, mais pour l'entrée, on va demander forcément, on va faire des sélections, et on va demander un niveau physique correct. Au-delà de ça, on va demander une formation scolaire minimum, hein, notamment par exemple pour le concours officier, on va demander le bac ou un niveau équivalent. C'est un minimum, il faut également pouvoir sélectionner les gens, ça fait partie des critères. En dehors de ça, je pense que n'importe quelle personne qui est motivée pour exercer ce métier est à même de se présenter et s'il réussit le concours d'exercer ce métier. Il faut simplement être motivé et le prouver.
Alors donc, si je demande, voilà, comment ça se passe une journée d'un gendarme, voilà.
Alors une journée,
par exemple, cette semaine, donc, hier, comment ça s'est passé, voilà, votre journée. Donc, voilà, ça commence à quelle heure? Comment les tâches, comment elles sont organisées pendant la journée? Les tâches que vous effectuez, par exemple, voilà.
Alors, en l'occurrence, la journée d'hier, je ne pourrais pas vous la décrire puisque j'étais en repos, mais c'est un bon exemple puisque
oui, voilà.
ça démontre que... Comme les personnels civils ont une semaine de travail du lundi au vendredi et ne travaillent pas le week-end ou les jours fériés, à contrario, ayant un statut militaire, on est amené à travailler les week-ends, les jours fériés et à avoir nos repos en semaine, ce qui était mon cas cette semaine. Mais je pourrais vous donner une journée...
Voilà, une journée complète.
Une des journées qui est assez représentative, voilà. Chez nous, c'est la journée où on est de permanence. Donc on prend la permanence de 8h le matin jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc on prend une permanence de 24h non-stop. En fonction également de notre statut, moi je suis officier de police judiciaire, donc c'est différent. Je suis chef de patrouille et à ce moment-là, on va être appelé à intervenir tout au long de la journée sur la période, le créneau de 24 heures. Et s'il y a des besoins d'interpellation, de garde à vue, je serai en charge du suivi de la garde à vue pour ce créneau de 24 heures. Avec des particularités, puisque la gendarmerie évoluant, maintenant on peut également retransmettre la garde à vue à d'autres personnels à l'issue du délai de 24 heures si c'est nécessaire. Mais mon équipe, qui sera de permanence avec moi, interviendra sur ce créneau de 24 heures à tout moment de la journée ou de la nuit, si l'événement le nous commande. C'est-à-dire s'il y a une intervention alors qu'on n'est pas censé être en patrouille à l'extérieur et qu'on est au domicile, eh bien on sera rappelé par le centre opérationnel qui se situe à Bar-le-Duc, qui va nous activer sur une intervention, et puis cela prendra le temps que ça prendra. Il faudra passer le temps nécessaire à ce que l'intervention soit gérée.
Et est-ce qu'il y a aussi, donc, par exemple, la semaine, vous faites inventaire au niveau du nombre de passages, etc., de l'accueil qui, est-ce que le nombre, par exemple, de demandes, ça augmente ou bien ça diminue ou bien c'est constant? Voilà, donc,
le nombre de demandes à quel niveau?
Demande par exemple de plaintes, demande, voilà, donc être toujours au niveau de téléphone pour voilà, de l'aide, etc., de la gendarmerie. Est-ce que ça accentue au niveau des années ou bien c'est toujours le même nombre?
Alors je dirais que c'est assez continu, ça ne varie pas énormément. Bien sûr, il y a des périodes où on est beaucoup plus sollicité. Au niveau de l'accueil de la brigade, le téléphone sonne très régulièrement, mais ça peut être simplement une demande de renseignement ou une personne qui prend contact pour rencontrer un enquêteur ou dans le cadre d'une convocation suite à une enquête judiciaire. Ça peut également être pour déclencher une intervention. Hein, et le chargé d'accueil prend également, en plus du centre opérationnel qui maintient une veille au niveau départemental, de jour comme de nuit, les personnes peuvent appeler directement la brigade. Et à ce moment-là, le chargé d'accueil déclenchera lui-même l'intervention.
Voilà, donc avant de continuer donc, de parler de gendarmerie de Commercy, on essaie de revenir maintenant sur c'est quoi la gendarmerie au niveau de présentation générale. Donc si on veut, voilà, c'est les personnes qui ne connaissent pas, parce que quand on parle de gendarmerie, il y a plusieurs, voilà, il y a gendarmerie nationale, avec plusieurs secteurs dans chaque gendarmerie. Tout ça, la majorité n'ont pas cette idée-là, ils ne connaissent pas, voilà, le fonctionnement.
Alors, la gendarmerie nationale, sous son appellation, et on va faire un petit peu d'histoire en passant, le terme de gendarmerie nationale existe depuis 1791. Donc, c'est une institution qui existe depuis très longtemps, qui est une institution militaire, une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois, assurer la sécurité et l'ordre public, et particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, de plus en plus en zones périurbaines d'ailleurs, ainsi que sur les voies de communication. Donc la police judiciaire est l'une de ses missions essentielles. Elle contribue à la mission de renseignement, d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme et à la protection des populations. Alors l'action de la gendarmerie s'exerce sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'aux armées, au profit de tous les départements ministériels et plus spécialement ceux de l'intérieur, de la défense et de la justice. Elle est organisée et structurée par son statut militaire, son maillage territorial et la vie en caserne de ses personnels, condition d'une disponibilité permanente et immédiate, comme on l'a vu, puisqu'on peut être appelé de jour comme de nuit. En gendarmerie, il y a environ 100 000 personnels d'actifs, 100 000 militaires d'actifs, et près de 26 000 réservistes. Donc les réservistes, ce sont des personnes qui sont appelés ponctuellement pour renforcer les militaires d'actifs dans certaines occasions, comme par exemple cet été, le passage du Tour de France sur notre circonscription, nous amènera à obtenir des renforts de réservistes. Ce sont donc des personnels, des personnes qui travaillent dans le milieu civil, mais qui ponctuellement, à l'issue d'une formation militaire, nous renforcent dans les unités territoriales.
Alors, donc, quand on parle de la gendarmerie nationale, mais il y a toujours plusieurs missions. Mais c'est quoi? Combien de missions principales par rapport à les activités qui sont demandées?
Alors, il y a trois missions principales qui absorbent l'activité de la gendarmerie, à savoir la mission de police judiciaire, la mission de police administrative, de sécurité routière et de renseignement, et la mission de défense nationale. Alors, je vais vous les détailler un petit peu. Oui, concernant la police judiciaire, la gendarmerie traite chaque année près du tiers des crimes et délits commis en France. Et son action en ce domaine comprend la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche et l'identification des auteurs d'infractions. Tout cela sous le contrôle des magistrats et notamment le procureur de la République qui dirige la police judiciaire. Concernant la police administrative, qui s'effectue sous l'autorité du préfet, son objet essentiel est la sécurité publique. En partenariat étroit avec d'autres acteurs comme les maires, les polices municipales, dans les domaines préventifs par exemple, la gendarmerie assume cette responsabilité sur 95% du territoire au profit de 50% de la population. Donc quand on parle de 95% du territoire, ça paraît énorme, mais la gendarmerie exerçant son activité en zone rurale et périurbaine, on comprend bien que cela représente une très grande étendue du territoire. Alors l'activité de police administrative, elle recouvre un vaste domaine, notamment le renseignement d'ordre public, l'intelligence économique. On pourrait citer les actions de prévention de la délinquance, le maintien de l'ordre qui est assuré par les escadrons de gendarmerie mobile, la sécurité routière qui implique la surveillance du réseau, une action éducative auprès des conducteurs, une aide aux usagers en difficulté ou encore l'intervention sur des accidents corporels notamment. Il y a également la protection de l'environnement, l'assistance aux personnes qui nécessitent parfois des secours spécialisés. Je pense notamment par exemple au secours en montagne avec des pelotons spécialisés, avec des moyens spécialisés pour les recherches de personnes disparues également par exemple. Et également le dispositif Vigipirate que tout le monde connaît aujourd'hui.
Et comment maintenant, est-ce que, parce que chaque fois on en parle de... dispositif Vigipirate. Comment il fonctionne maintenant? Parce que chaque fois, on ajoute plus par rapport à certains événements. Et il est comment maintenant? Il fonctionne comment pour la gendarmerie?
Alors, de plus en plus, on entend parler d'attentats. Mmh. Donc, on se prémunit le plus en amont possible pour lutter contre ces phénomènes. Ça va passer beaucoup par la prévention. On travaille en partenariat avec, par exemple, les établissements scolaires, avec tout un tas de structures, d'organismes, et on essaye de travailler ces domaines préventifs le plus tôt possible pour prévenir tous ces événements.
D'accord. Et l'autre émission, la troisième émission, c'est quoi?
Alors, la troisième et dernière mission principale, c'est la défense et la sécurité nationale. Il faut savoir que la gendarmerie est concernée par cinq grandes fonctions stratégiques, s'agissant notamment de la dissuasion. Elle exerce le contrôle gouvernemental sur les armes et systèmes d'armes nucléaires. Elle contribue aux fonctions de connaissance et d'anticipation, ainsi qu'à la prévention par le renseignement et la lutte contre les différents trafics illicites. La gendarmerie est un acteur majeur de la protection du territoire. Elle assure la sécurité des points sensibles civils et militaires et protège les institutions de la République. Je pense notamment à la garde républicaine. La gendarmerie est en mesure d'intervenir, par exemple, avec des moyens spécialisés dans le domaine de l'intervention lors de menaces graves comme le contre-terrorisme. Concernant la projection des forces d'intervention, la gendarmerie engage chaque année des militaires sur des théâtres d'opérations extérieurs ou s'intègre dans des dispositifs de protection de nos ressortissants à l'étranger. Donc on est également présent sur les territoires étrangers, que ce soit je parle bien de l'étranger, hein, pas uniquement des départements et territoires d'outre-mer qui sont considérés comme la France. Hein.
Est-ce que c'est la gendarmerie qu'on vient d'entendre, nationale? Est-ce que c'est le même fonctionnement quand on parle de la présentation au niveau régional ou local? Comment ça s'organise?
Alors, il y a différentes strates, hein, vous imaginez bien. Au niveau local, À Bar-le-Duc se situe le groupement de gendarmerie, qui est l'échelon de commandement au niveau du département. Il assure la sécurité de la population sur l'ensemble des territoires ruraux en collaboration permanente avec la police nationale. Le groupement de la Meuse est subdivisé en deux compagnies, l'une à Commercy, l'autre à Verdun. Et le groupement est commandé par des officiers supérieurs. Les compagnies sont divisées en communautés de brigades et brigades territoriales autonomes, comme c'est le cas à Commercy. Pour le département de la Meuse, cela représente au total 21 unités réparties sur le territoire selon une logique de proximité. Ces brigades sont notamment chargées de l'accueil du public, comme on en a parlé tout à l'heure, et du contact avec la population, y compris, comme je le disais, les dimanches et les jours fériés. Elle est également en charge des interventions suite à des appels d'urgence passés au 17 ou directement sur le standard de la brigade, de patrouilles de prévention et dissuasion et des investigations judiciaires initiales ou locales par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'éventuellement des techniciens en identification criminelle de proximité pour ce qui est des constatations. L'action des brigades territoriales est complétée par celle de diverses unités à vocation particulière. Je pourrais citer par exemple les unités de recherche spécialisées dans la police judiciaire. En Meuse, il existe une brigade de recherche par compagnie et une brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire au niveau départemental. Ces unités se consacrent à la police judiciaire. Elles assistent les brigades territoriales et prennent à leur charge les enquêtes qui nécessitent soit une technicité particulière ou une grande disponibilité. Et elle dispose notamment de militaires spécialisés dans certaines investigations complexes que peuvent être la cybercriminalité, l'analyse criminelle, les atteintes à l'environnement, la confection de portraits robots par des témoignages apportés dans le cadre de procédures judiciaires et la délinquance économique. Ensuite, on va retrouver des unités d'intervention comme le peloton de surveillance et d'intervention. Donc il en existe un à Verdun, un à Bar-le-Duc et un à Commercy. Ils sont implantés dans les zones les plus sensibles au plan de la délinquance et sont rattachés au niveau compagnie. Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sont...
Quand vous parlez de renforcer rapidement...
Voilà, c'est ça. Ils sont chargés de renforcer donc rapidement les brigades, appelées sur les lieux d'un crime ou d'un délit, d'un incident ou d'un accident, ou de tout autre événement qui peut troubler l'ordre public. Ils sont notamment équipés et entraînés pour effectuer des missions d'interpellation judiciaire plus délicates ou des transferments de détenus signalés. Certains personnels peuvent être certifiés négociateurs de crise également. Les pelotons de surveillance et d'intervention sont également chargés d'assurer, en dehors du temps des interventions, des missions de surveillance, au même titre que les brigades territoriales, par des patrouilles de jour, mais plus particulièrement de nuit, en complément des services effectués par les brigades territoriales pour optimiser la couverture des territoires. Chaque peloton de surveillance et d'intervention est également doté d'une équipe cynophile, c'est-à-dire d'un maître-chien, qui est spécialement formé à la défense dans un premier temps, puis spécialisé soit dans la recherche de produits stupéfiants ou de billets de banque, d'armes ou à la recherche de personnes.
Ouais, donc quand on parle, avant de passer de voir les autres unités, quand on parle de voilà les pelotons de surveillance et d'intervention à Verdun, Bar-le-Duc et Commercy, donc, est-ce que ça aussi donc, quand on parle de lycée, il y a aussi donc ces unités, ils interviennent souvent ici au lycée ou bien par exemple les établissements, les collèges, les lycées, dans quel cas?
Alors ils peuvent être amenés à intervenir aux abords du lycée. Lors de leur mission d'intervention, hein, tout dépend de là où on va être sollicité et dans quel cas. Au niveau du lycée, il y a quelques temps, on a été confronté à des phénomènes de violence par des bandes rivales, au même titre que les personnels de la brigade territoriale autonome de Commercy, ils ont été amenés à nous renforcer pour intervenir sur les lieux et sécuriser les lycéens.
Et donc, il y a souvent des événements comme ça, donc ça sera l'année qui arrive.
Alors, au niveau du lycée, non, pas particulièrement, mais les pelotons d'intervention sont très régulièrement employés et appelés à intervenir sur des interventions qui nécessitent une formation spécifique dans le cadre de l'intervention. puisque c'est leur domaine de prédilection. Ils sont spécialement formés pour intervenir et sont à même de nous renforcer à chaque fois que cela est nécessaire.
Donc voilà, donc c'est et là donc quand on parle donc au niveau des les unités, tout le monde il peut faire tous ces trois unités, donc il peut alors, varier ou bien vraiment il faut être spécialiste pour intervenir pour les unités de surveillance ou bien pour les unités de sécurité routière ou pour les au niveau de la police judiciaire comment.
Alors toutes les unités, quelle que soit leur spécialité, il faut savoir qu'il faut d'abord avoir une formation de base qui est inculquée en école, à l'issue de laquelle on est affecté soit en gendarmerie mobile, soit en gendarmerie départementale. Donc en gendarmerie mobile, les escadrons de gendarmerie mobile qui assurent l'ordre public, notamment au cours de manifestations, mais également qui renforcent les unités territoriales par des patrouilles. Les unités de gendarmerie départementale, lorsqu'on sort d'école, on va être affecté dans une unité en tant qu'agent de police judiciaire. Mmh. Alors, soit on reste agent de police judiciaire et on va avoir des missions qui seront limitées de par notre formation, ou on s'engage dans une carrière où on va se spécialiser dans la police judiciaire. On va passer un examen qui est l'examen d'officier de police judiciaire, ce qui va nous faire changer de qualification, nous donner la possibilité d'évoluer dans le grade et nous apporter quelques prérogatives supplémentaires, notamment dans le domaine de la police judiciaire. On aura plus de droits, notamment le droit d'émettre des réquisitions, de placer des personnes en garde à vue, etc. Mais pour ce qui est des spécialisations, il faudra tout d'abord avoir la formation initiale, passer par une école de sous-officiers de gendarmerie, sortir d'école, être titularisé, et par la suite, on pourra demander à être spécialisé dans tel domaine ou tel autre domaine.
D'accord. Donc là, quand on là, les unités de sécurité de réseau routier, donc elles fonctionnent pareil ou...
Alors, les unités de sécurité du réseau routier, il faut savoir qu'il y a un escadron départemental de sécurité routière qui est composé de 3 brigades motorisées qui sont implantées à Bar-le-Duc, Commercy et Verdun. Et leur action principale réside dans la sécurité routière, que ce soit liée à la vitesse, aux addictions ou tout un tas d'autres infractions qui peuvent être constatées. Mais aussi dans la lutte contre la délinquance sur les grands axes routiers du département. On n'a pas évoqué encore le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie. J'en ai très brièvement parlé tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une unité qui va recevoir les appels passés au 17, qui est donc chargée de réceptionner ces appels et de piloter les interventions du groupement. Elle va orienter et engager les unités localement compétentes pour intervenir. Donc cette unité particulière dispose d'une capacité de montée en puissance en cas de crise, en lien avec les autres centres d'appel de secours que sont la police nationale, les pompiers, le SAMU, et avec la préfecture. Donc le centre opérationnel dispose de personnel spécialisé dans la recherche et analyse du renseignement d'ordre public ou de la sécurité économique. Je fais allusion à la cellule renseignement notamment. Et en étroite association avec la police nationale. Le groupement de la Meuse bénéficie ponctuellement du renfort de réservistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également de gendarmes mobiles, dont les actions de sécurité visent principalement à accroître la présence des gendarmes sur le terrain et à améliorer la réactivité et renforcer la lutte, notamment contre les cambriolages. Plus largement, les actions de la gendarmerie s'insèrent dans un dispositif global d'action partenariale interservice impliquant également les élus, le milieu associatif, sous l'égide du préfet de la Meuse et le procureur de la République de Bar-le-Duc, s'agissant des majeurs et de Verdun concernant les mineurs, afin de prévenir les actes de délinquance. Enfin, la gendarmerie étant basée sur les principes de subsidiarité et de complémentarité de ses unités opérationnelles, le groupement de gendarmerie départementale de la Meuse peut faire appel, lorsqu'il est confronté à des situations particulières, à des renforts de niveau régional ou zonal spécifiques, comme les moyens aériens ou nautiques, qui se trouvent basés sur Metz au niveau régional, à la section de recherche, à la gendarmerie mobile, etc. Ou voire même au niveau national, dans certains cas, comme le recours à certains services comme l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le centre de planification et de gestion de crise, voire le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Alors, quand on voit par rapport à ces trois unités, lesquelles qui demandent plus de personnel, de moyens, ou que, voilà, de demandes au niveau d'intervention, ou bien c'est la même, fonctionne de la même manière, c'est les mêmes moyens, c'est les mêmes aussi, donc intervention, le même nombre, ou bien c'est une qui a plus de, voilà, qui est sur le terrain, qui intervient plus sur le terrain.
Alors, les différents moyens en personnel ou en matériel, toutes les unités ont des moyens différents, que ce soit en effectif de personnel ou en matériel, en fonction des interventions qu'ils vont avoir à mener. La brigade territoriale est assez pluridisciplinaire, donc elle va avoir un certain matériel et un effectif défini qui peut être amené à évoluer, mais assez peu. Tandis que certaines unités spécialisées, notamment comme on l'a évoqué, le GIGN par exemple, va avoir du matériel très spécifique basé uniquement sur l'intervention et vont avoir des moyens très importants du fait de l'importance de leur intervention, puisque quand le GIGN intervient, généralement c'est que la situation est assez critique et qu'on a besoin de personnel spécialement formé à très haut niveau pour pouvoir intervenir et gérer une situation.
D'accord. Donc, et là, quand on parle des unités, là, on parle aussi des missions de chaque de prévention, les missions qui sont effectuées par les personnels. C'est quelle sorte de mission ?
Alors, concernant la prévention, il faut savoir que chaque militaire de la gendarmerie est acteur de la prévention, hein, notamment par le biais de la police de sécurité du quotidien, qui vise à maintenir et à renforcer les contacts et partenariats avec les représentants des structures publiques ou privées locales, mais également avec la population. Des personnels sont spécialement formés dans le domaine de la prévention. Je parle notamment du référent ou du correspondant sûreté, qui sont des acteurs principaux de la sûreté. Donc on entend par sûreté les atteintes volontaires aux personnes et aux biens, à l'opposition de la sécurité qui concerne les atteintes involontaires, hein, donc les atteintes accidentelles aux personnes et aux biens. Mais également de la prévention technique de la malveillance, qui est la mission particulière des référents et correspondants sûreté. Et à ce titre, nous sommes amenés à intervenir au profit du lycée pour améliorer cette qualité d'intervention et améliorer la sûreté au sein de l'établissement. Alors, le référent et le correspondant sûreté, ils peuvent par exemple être amenés à travailler en collaboration avec les communes, commerçants, départements, afin d'améliorer la sûreté et de développer la vidéoprotection, ce qui a été le cas sur la commune de Commercy ces dernières années. Nous allons également, dans le domaine de la prévention, rencontrer le correspondant territorial prévention de la délinquance, fonction que j'exerce pour la brigade territoriale autonome de Commercy. Son rôle, c'est d'animer et coordonner les actions de prévention de la délinquance au sein de l'unité, et également responsable du partenariat avec les services extérieurs à la gendarmerie. C'est aussi pour ça que je suis assez souvent présent au sein du lycée Henri Vogue, mais pas uniquement, au sein de l'ensemble des établissements scolaires de notre circonscription.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour ce cas-là,
des interventions au sein du lycée ? Au sein du lycée, dans le cadre de la prévention, on peut être amené à animer des présentations de sensibilisation sur la lutte contre les stupéfiants, hein, les sensibilisations aux risques liés à la consommation de produits stupéfiants ou les addictions d'une manière générale, qu'elles soient concernant l'alcool ou les stupéfiants pour des personnes qui prendraient le volant, par exemple, puisque quand on est au lycée, on est en âge de conduire ou à minima un deux roues. Donc il faut pouvoir être conscient des risques qu'on prend lorsqu'on a consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Donc ça peut être, par exemple, des interventions de ce type-là au profit des lycéens. Il m'est arrivé récemment de participer au sein du lycée à un forum des métiers également, en association avec Carémeuse, qui est une structure, une association qui rassemble des gérants d'entreprises, hein, des patrons de sociétés, qui donnent de leur temps pour présenter aux élèves leur métier, et dont je faisais partie le mois dernier, à expliquer à nos adolescents ou à nos lycéens ce qu'on peut leur proposer dans nos différentes institutions ou nos différentes sociétés.
Vous avez, donc, pendant ce forum, vous avez eu donc, beaucoup de donc, rencontres avec les jeunes du lycée. Il y en a pas mal qui...
Oui, on a été amené à rencontrer...
On a été amené à rencontrer
un certain nombre de lycéens qui s'intéressaient de près au métier, qui avaient besoin d'échanger pour connaître un petit peu les expériences vécues d'un militaire d'active. Et qui se sont investis dans ce forum et qui ont posé tout un tas de questions. Les questions qui reviennent souvent, hein, notamment quels sont les diplômes nécessaires ou qu'est-ce que je peux faire en gendarmerie. On l'a évoqué tout à l'heure, à quoi ressemble une journée type en gendarmerie. Donc ils étaient assez preneurs de tous ces renseignements-là, et notamment sur l'expérience. Ils sont très attirés par l'expérience qu'on a pu vivre sur le terrain.
Oui, donc c'est vrai, donc c'est ce qu'on vient déjà d'entendre avec variété au niveau des unités, variété au niveau de services, des missions. Et c'est vrai, donc c'est-à-dire, il y a le choix, il est là, donc il y a beaucoup de possibilités. Et c'est vrai, donc même si on pense que ce n'est pas suffisant, même de parler d'une journée, d'un gendarme, donc ce n'est pas suffisant. Voilà. Mais quand on entend notre travail qui est effectué, les missions, etc., ça montre qu'il faut vraiment bien s'informer pour s'intéresser et choisir après, parce que ça demande vraiment beaucoup de mobilité.
Tout à fait. On ne connaît pas la routine en gendarmerie.
Oui,
on est, comme je le disais, commandé par l'événement,
oui,
avant
oui.
tout.
Donc il y a d'autres, au niveau de quand on parle d'autres services de police, à part donc, ce qu'on a vu, il y a des polices de sécurité, il y a d'autres...
Alors oui, on parlait tout à l'heure du correspondant territorial prévention de la délinquance. Donc on a évoqué les actions pédagogiques qu'ils pouvaient mettre en place, notamment donc, au sein des établissements scolaires, ce dont on vient de parler. On pourrait citer par exemple les permis piétons qui sont une action menée auprès des écoles primaires. Les actions de prévention et de sensibilisation aux addictions, comme c'est le cas, comme je vous l'ai expliqué, au sein de lycées, mais également pour les collèges. Des sensibilisations aux risques liés à Internet et notamment les réseaux sociaux et la cybercriminalité, des sensibilisations auprès des commerçants, des personnes particulièrement vulnérables comme les personnes âgées par exemple, la prévention senior, la prévention auprès d'associations comme il nous est amené régulièrement de le faire. Il y a également des dispositifs particuliers qui sont mis en place par la gendarmerie. Je pense notamment au dispositif de participation citoyenne, qui est une démarche partenariale visant à lutter contre la délinquance de proximité, et notamment contre les cambriolages. C'est un dispositif qui est mis en place en partenariat avec les élus d'une commune, avec le commandant de la compagnie de gendarmerie de Commercy et également monsieur le sous-préfet. Il y a également les opérations Tranquillité Vacances ou Tranquillité Senior. Donc, opération Tranquillité Vacances, on en parle régulièrement, arrivant au beau jour, sur les journaux télévisés, on en parle systématiquement. Donc, c'est une opération qui vise à surveillance des maisons inoccupées, hein, des personnes qui partent en vacances. La gendarmerie se charge de surveiller les maisons des personnes qui le signalent.
Il y a beaucoup de demandes ici dans la Meuse.
Il y a très régulièrement des demandes de surveillance qui sont faites de manière régulière. Il faut savoir qu'on a des appareils, maintenant la gendarmerie est évoluant comme toute autre structure. On est équipé d'appareils qui nous permettent de visualiser sur une carte toutes les opérations tranquillité vacances actives du moment en temps réel avec les dates de début et de fin. Et on est amené à surveiller ces maisons-là et à valider avec, avec nos tablettes et smartphones professionnels, via une application dédiée, la surveillance de ces maisons. Donc on peut voir quand a été surveillée la maison pour la dernière fois, ce qui nous permet d'avoir une surveillance continue sur ces habitations inoccupées. Voilà, le correspondant territorial prévention, pour finir, alimente le site Facebook du groupement de gendarmerie de la Meuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un site, un profil Facebook, groupement de gendarmerie de la Meuse, sur lequel apparaissent les différentes actions de la gendarmerie locale au niveau du département, notamment celle des correspondants territoriaux prévention de la délinquance sur les différentes unités meusiennes. Et également des conseils ou des informations qui peuvent vous être délivrées. Par exemple, quand arrive une vague de forte pluie, d'orage ou quelque chose de la sorte, vous pouvez être sensibilisé à tous ces phénomènes et vous renseigner sur ce site Facebook groupement.
Il y a quoi, beaucoup consulté ce site?
Oui, alors il est très suivi. Il est très suivi par de nombreuses personnes. Tout le monde n'en a pas connaissance, donc je profite de cette occasion pour vous inviter à aller voir le profil Facebook du groupement de gendarmerie de la Meuse, sur lequel vous pourrez trouver différentes informations au fil de l'eau.
Ah, donc, voilà, donc on revient. Donc, il y a aussi donc des interventions au niveau c'est, donc problèmes familiaux, etc. Donc
alors. Oui, tout à fait. Alors, il existe d'ailleurs des intervenants sociaux gendarmerie qui ont été mis en place pour prévenir des violences intrafamiliales ou éviter la réitération des faits. Donc, en zone gendarmerie, sur le secteur meusien, nous avons deux travailleurs sociaux qui travaillent en partenariat avec le groupement de gendarmerie de la Meuse et en lien également avec l'association d'aide aux victimes, qui est le CIDFF, le Centre d'information des droits de la femme et de la famille, qui se situe à Verdun. Donc il s'agit de partenaires avec qui on échange régulièrement pour favoriser leur intervention dans le milieu familial, puisque c'est un domaine assez compliqué et certaines personnes ou certaines familles ont besoin d'un accompagnement spécifique que nous ne pourrons pas leur apporter sur le long terme. Nous, on va gérer l'intervention sur le moment. Et ces intervenants sociaux se chargeront du suivi sur le plus long terme suite à ces interventions-là.
Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est donc, la population. Donc quel service de police de sécurité qui est du quotidien? Donc c'est quoi ce objectif et l'engagement, surtout son rôle autour de la population et avec la population, ses principes, etc. Et les moyens d'action qu'il essaie donc d'effectuer en contact direct.
Alors, le gendarme, quel que soit son statut ou son grade, s'engage dans les actions de proximité au contact de la population qu'il protège. Cette proximité, elle s'inscrit dans la mission de service public de la gendarmerie avec une exigence de service au public qui contribue à l'exécution des missions de police administrative et judiciaire et notamment à la recherche du renseignement. Elle concourt à l'acceptation du bien fondé de son action dans le système social. La sécurité quotidienne et le bien-être de la population constituent une priorité essentielle pour laquelle le gendarme mobilise toute sa compétence et sa disponibilité. C'est le principe de la police de sécurité du quotidien qui évolue ces dernières années et qui tend à un rapprochement avec les différents partenaires et la population afin d'accroître le sentiment de sécurité. Les principes de la police de sécurité du quotidien, c'est l'appartenance à la population. N'importe quel gendarme fait partie intégrante de la population. Il vit parmi les gens auprès de qui il peut être amené à intervenir et il fait partie intégrante de la population. Le gendarme s'adapte au territoire en fonction de ses différentes affectations. Il va être amené à s'adapter et à nouveau à connaître ou à mettre en place de nouveaux partenariats. Il se doit de connaître la société en général, mais plus particulièrement sa circonscription. Il doit avoir un comportement bienveillant vis-à-vis de la population et des différents administrés. il a un rôle, de conseil. Il peut être amené à orienter les personnes, voire à les rassurer. Il doit faire preuve de respect, de courtoisie, politesse et rejeter toute forme de discrimination, bien entendu. Faire preuve d'empathie, de disponibilité et être à l'écoute. Il doit être attentif aux sentiments d'insécurité dont on a souvent entendu parler depuis quelques années, aux sentiments de peur ou des préoccupations des concitoyens. Et il doit rechercher la satisfaction de la population et être animé par la volonté d'être utile et rassurant, connu et reconnu de la population.
Voilà, donc on veut avoir des exemples, donc des moyens d'action qui sont effectués par la police de sécurité du quotidien. Voilà des exemples.
Alors, dans les moyens d'action, je dirais que la proximité doit être ciblée par un accueil personnalisé, par exemple, à l'accueil de la brigade. Voire même parfois on va être amené à se déplacer au domicile du requérant. On arrive en période électorale, on peut être amené à se rendre au domicile de certaines personnes, notamment les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, pour les aider dans leur démarche pour les procurations, hein, par exemple. On va également adapter nos modes de déplacement en favorisant la proximité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais régulièrement, au sein de la brigade de Commercy, on est amené à faire des patrouilles en VTT, voire à pied, ce qui permet de se rapprocher de la population et favoriser le contact avec les gens. Les victimes et les personnes vulnérables également, on doit avoir une attention privilégiée pour l'assistance et l'accueil de ces personnes-là. Aux besoins avec l'aide des intervenants sociaux dans les cas qu'on a précédemment évoqués. On va avoir également une obligation de maintien du contact avec les réservistes et les retraités de la gendarmerie qui se situent sur notre secteur, qui vont avoir quitté l'institution et qui... habitant sur notre secteur, vont peut-être être source de renseignements et vont avoir une nécessité de notre part d'être à l'écoute. Les élus également auront besoin de notre soutien, éventuellement de nos conseils, et on devra être en mesure d'aider les élus en matière de prévention et de sécurité publique, notamment face à la mise en place de la vidéoprotection, comme ça a été le cas récemment sur la commune. On va devoir entretenir un partenariat avec un réseau d'acteurs de la vie locale et de sécurité publique par la coopération au niveau de ces faits-là, ce qui est le cas avec le lycée notamment. On a un devoir d'information de la population dans le respect de la discrétion et du secret professionnel, bien entendu. La prévention de la délinquance également s'engage dans les initiatives et dispositifs de prévention de délinquance juvénile, les conduites addictives et en particulier dans le milieu scolaire. La participation citoyenne dont on a parlé tout à l'heure peut être un levier d'action, ce qui permet d'associer donc la population en vue de renforcer la sécurité, puisque cette participation citoyenne, c'est un dispositif qui est mis en place avec le concours de la population, des habitants des communes concernées, puisqu'on va nommer des référents de ce dispositif, des référents participation citoyenne, comme ça a été le cas sur les communes de ville l'an dernier. Ces référents vont recueillir des renseignements de la part de la population et vont nous retransmettre ces informations-là en temps réel, ce qui va nous permettre de raccourcir le délai de transmission des éléments et de trouver un référent au sein de la gendarmerie. Donc c'est un militaire qui sera connu de ces référents-là, puisque c'est le correspondant territorial prévention. Donc le correspondant territorial prévention va entretenir cette communication avec ces référents et va instaurer un climat de confiance, ce qui va nous permettre d'obtenir des renseignements plus facilement et plus rapidement. Et ça nous permettra peut-être d'orienter des investigations ou des enquêtes et éventuellement identifier des auteurs d'infractions.
Voilà, donc quand on parle avec tous ces actions, avec tous ces principes et ces engagements, pour vous, est-ce que parfois il y a un moment où c'était difficile, ou un moment que parfois ça a laissé des bons souvenirs, voilà, avec réaction des habitants, bien d'une personne, ou parfois c'est des anecdotes, voilà, que c'est vraiment, c'était surprenant des réactions.
Alors, je pense que vous faites allusion aux événements marquants que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, personnel.
Oui, il y a eu plusieurs événements. Alors, ma carrière ayant lieu en plusieurs phases, hein, notamment, je fais allusion à la gendarmerie mobile, puisque j'ai vécu 4 ans en gendarmerie mobile, donc j'ai fait quand même quelques déplacements. J'ai certains très bons souvenirs de déplacements, notamment en Outre-mer. J'ai pu partir durant 3 mois en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, sur l'île de la Réunion ou en Corse. Ce sont très vraisemblablement des déplacements que je n'aurais jamais fait à titre personnel si je n'avais pas été amené à exercer mes fonctions sur ces territoires-là. Je ne pense pas qu'il me serait venu l'idée de partir en Nouvelle-Calédonie pour découvrir cette île, bien qu'elle mérite d'être connue. J'ai eu cette occasion-là, je l'ai saisie et je ne le regrette pas aujourd'hui. Ce sont des déplacements qui m'ont laissé de très bons souvenirs et une expérience tout à fait inattendue. Voilà, je ne m'attendais pas à ces choses-là en partant en gendarmerie mobile. Dans les événements marquants de ma carrière, ce que je retiendrai le plus, ce sont les situations de maintien de l'ordre dans le cadre des émeutes qui ont eu lieu en novembre 2005 en région parisienne. Donc, pour rappel, ces émeutes de 2005 dans les banlieues parisiennes ont vu le jour à la suite de la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, Ziyad Bena et Bouna Traoré. C'était le 27 octobre 2005. Ils se sont réfugiés dans un poste électrique alors qu'ils étaient recherchés et tentaient d'échapper à la police. Ils sont donc décédés, hein, suite à une électrocution. Il y a eu un autre événement 3 jours plus tard, puisqu'une grenade lacrymogène a été accidentellement lancée par les forces de l'ordre qui étaient en train de se faire caillasser devant la mosquée Bilal. Donc ces deux événements-là cumulés ont donné lieu à des émeutes en région parisienne, et notamment à Clichy-sous-Bois, Montfermeil et à l'ensemble de la Seine-Saint-Denis par la suite. Et même au-delà de la région parisienne, puisqu'un peu partout en France, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont déclenchés, amenant jusqu'au 8 novembre 2005, date à laquelle l'état d'urgence a été décrété et prolongé pendant une durée de 3 mois. La situation est revenue à la normale aux environs du 17 novembre. Au total, il y a eu 2921 personnes interpellées et 4 morts parmi la population suite à ces événements. D'importantes dégradations d'infrastructures et de matériel, et en particulier de très nombreuses voitures brûlées. Ces 3 semaines se démarquent d'autres émeutes urbaines qui ont pu avoir lieu en France. On a même parlé d'émeutes plus importantes que celles de mai 68. Donc tous ces événements-là m'ont particulièrement marqué au cours de ma carrière, puisque c'était très particulièrement violent. J'ai été témoin de toutes ces voitures qui brûlaient, de toutes ces personnes qui se rebellaient contre le système et tentaient par tous les moyens de s'en prendre aux forces de l'ordre ou à toute représentation de l'État.
Et donc maintenant, si voilà, pour faire passer un message à nous, donc aux personnes qui écoutent, aux élèves, surtout aux jeunes, quel conseil leur donner s'ils veulent vraiment choisir ce chemin-là aussi pour devenir un gendarme? Quel conseil vous voulez leur donner? Bien, le faire passer.
Alors, s'ils sont motivés pour intégrer notre institution, eh ben, ils seront bien entendu les bienvenus. différents choix leur seront proposés en fonction de leur âge, de leur formation. Ils pourront être amenés à postuler pour différents postes. Pour les plus jeunes, ils pourront se présenter au concours pour devenir gendarme adjoint volontaire. Donc, je le disais, ce sont des contrats qui sont renouvelables jusqu'à 5 ans maximum, qui leur permettent de découvrir l'institution et le métier et de confirmer qu'ils veulent en faire leur métier à plus long terme. Ça leur laissera la possibilité de préparer le concours sous-officier s'ils le souhaitent. Il y aura également le concours sous-officier pour ceux qui ne veulent pas être gendarme volontaire, mais savent déjà qu'ils veulent faire carrière sur le long terme en gendarmerie. À ce moment-là, ils pourront se présenter au concours de gendarme sous-officier. À ce moment-là, il faudra qu'ils passent le concours qui n'est qu'une seule fois par an. Ils auront la possibilité de le présenter à plusieurs reprises, éventuellement s'ils ne satisfont pas à leur première tentative. S'ils veulent des renseignements complémentaires sur les diplômes requis, bien que j'en ai parlé tout à l'heure, puisque j'ai expliqué qu'il fallait avoir le bac au minimum pour pouvoir prétendre à une candidature sous-officier, ils peuvent se présenter à la brigade de gendarmerie de Commercy, où un de mes camarades se fera un plaisir de les recevoir. Nous avons un personnel qui est chargé du recrutement au niveau de notre unité. Il s'agit du gendarme Brincher. Ils peuvent se présenter directement à la brigade, demander à rencontrer le gendarme Brincher ou tout simplement le référent recrutement de la brigade et pour aller renseigner sur tous les éléments dont ils auront besoin pour les orienter dans une éventuelle carrière au sein de notre institution. Alors, il y a également, pour les personnes qui le souhaitent, la possibilité de devenir officier, mais également réservistes, comme on en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de personnes qui sont en mesure de donner de leur temps pour des événements ponctuels. Alors, bien entendu, ils auront une formation militaire et en fonction de leur disponibilité, pourront être appelés à servir au sein de l'institution. Et enfin, les spécialistes qui peuvent intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, en fonction de leurs compétences particulières, auront la possibilité d'intégrer ces formations spécialisées.
Donc, vraiment, avec ces discussions, ces échanges riches qu'on entend, vraiment, ça nous a montré vraiment la diversité, donc la richesse de ce métier-là. Et c'est quoi le dernier mot à dire, que vous voulez transmettre, vous voulez vraiment que tout le monde l'entende, un mot, une phrase, quelque chose qui vous tient à cœur?
Ben écoutez, je dirais que toute personne qui est motivée pour un métier comme le mien, il ne faut pas qu'il hésite à tenter sa chance, ne serait-ce qu'à découvrir l'institution en présentant une candidature gendarme adjoint volontaire, par exemple, qui vienne découvrir ce métier. Et puis peut-être, comme moi je l'ai fait à mon époque par l'intermédiaire du service militaire, peut-être il se verra naître une vocation pour l'institution et il en fera sa carrière.
Ah ben, tout est complet, donc ce qu'on vient d'entendre ensemble aujourd'hui sur la gendarmerie. Voilà, donc vous venez d'écouter, vous venez aussi d'entendre les informations nécessaires qui permettent ceux qui sont intéressés à ce métier-là, aux gendarmes, donc ils vous attendent et vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous donner l'information qui voulait vraiment pour continuer ou même choisir ce métier-là, qui est vraiment un métier qui demande beaucoup donc, d'investissement, surtout l'envie d'aider la population et surtout donc, faire vivre le calme et aussi vivre ensemble dans cette ville qui est Commercy. Et on remercie beaucoup M. Hildebrand par rapport à votre intervention et surtout d'accepter de venir parler ici dans la radio Vogue. Et merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie.
Independence, we say, going at them.
Right now, I'm about to drop something while I lock the whole world. Believe me, Taguana, Jamaica already.
Long time. I'm it. Let a white to the tea alongside Chinese man. Big on the bank, I'll tie with them, seeing the big bad mighty Johnny Asbury. Take it to them, our independence, we say.
Straight. Freedom, we say. Free speech, free movement. I don't know, independence. World independence record. Running from yard.
I beg you, free up the drum, we say free up the bass, free up the rhythm, make me nice up the place, free up the words and the power and sound. I strictly play the music that's around the town, they say, whoa.